Les penseurs chrétiens. Les penseurs chrétiens, une émission proposée par Philippe Soil, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Bienvenue, je vous invite à composer quelque chose comme un bouquet de fleurs. Nous irons cette année à la rencontre de quelques penseurs chrétiens, nous en recueillerons des pensées et nous les rassemblerons au fur et à mesure. Je vous invite par conséquent à deux choses. D'abord à écouter et ensuite à lire. C'est donc une invitation à la lecture. Chaque fois que nous aurons écouté la pensée d'un auteur, vous serez invités à le découvrir, si vous le souhaitez, plus avant par la lecture. Le travail que je vous propose ne sera pas complet, ne sera pas exhaustif. Cela ressemblera un peu à un vagabondage. C'est pourquoi j'ai commencé par l'image du bouquet de fleurs. Ce sera un parcours en partie historique, puisque nous commencerons, je vous le dirai tout à l'heure, par un auteur qui est très loin de nous dans le temps, mais très proche par la pensée et l'actualité. Et au cours de ce chemin, donc, nous irons à la rencontre de quelques penseurs chrétiens majeurs. Nous nous demanderons ce qu'a été leur expérience de Dieu. Nous chercherons leur découverte du Christ. Nous découvrirons le chemin qui les a conduits à une pensée chrétienne, ou pour le moins à une pensée inspirée de l'Évangile. Nous regarderons pour chacun sa vie, son éducation, sa formation intellectuelle. Nous serons attentifs à ce que nous pouvons déjà appeler une crise. Nous verrons avec Augustin notamment l'importance d'une crise spirituelle. Nous serons attentifs aussi aux ruptures, aux crises, aux événements marquants dans la vie d'un être humain. Et nous regarderons de quelle manière cette formation et ces événements marquants, justement, ont eu une grande influence pour leur pensée et le développement de leur pensée. Je serai donc attentif à la fois à la nouveauté apportée par chacun de ces penseurs chrétiens et en même temps à l'héritage qu'ils nous laissent encore aujourd'hui. Je serai attentif aussi à la relation entre l'expérience spirituelle de chacun et l'écriture, sous la forme de livres publiés ou de fragments ou de manuscrits non publiés, comme c'est le cas par exemple pour Blaise Pascal. Pour commencer cette série d'émissions, aujourd'hui je vous propose de parler d'Augustin, de saint Augustin d'Hippone, penseur majeur s'il en est. Nous pouvons dire que sans Augustin, nous ne serions pas exactement ce que nous sommes. Augustin est certainement un des penseurs les plus grands de toute l'histoire de la pensée, de toute l'histoire de la philosophie. Et je me suis dit qu'il fallait donc commencer par aller à sa rencontre, à son écoute, afin de découvrir tout l'immense héritage qu'il nous a laissé. Je noterai qu'Augustin a vécu la plus grande partie de sa vie dans une province de l'Empire romain qui s'appelait Africa, et qui s'appelle aujourd'hui l'Afrique du Nord. Allons donc à la rencontre de saint Augustin et regardons sa formation, sa famille et le développement de sa pensée. Je vous l'ai dit, Augustin, nous pouvons le considérer comme un père, ou un des pères fondateurs de la pensée chrétienne, et comme un père aussi fondateur de la philosophie, tout simplement. Et par là, j'irai jusqu'à dire qu'il est un des pères de l'Europe, puisque l'Europe moderne ne serait pas ce qu'elle est sans lui. Très rapidement, je donnerai quelques indications de ce qu'il a découvert. Tous ceux qui ont lu les confessions d'Augustin ont été émerveillés à la lecture de ce texte tout à fait fascinant. Une des choses les plus marquantes dès la première lecture, c'est le fait que c'est un livre écrit en première personne. Quelqu'un qui dit « je » et qui dit « je » parce qu'il a à raconter la vie qui a été la sienne, son enfance, sa formation, la crise de l'adolescence, la crise de la jeunesse. Et voilà donc un texte écrit en première personne. C'est un livre écrit en première personne, déjà simplement par le fait que c'est un homme qui écrit son autobiographie. Mais nous aurons l'occasion de voir que le « je » dont il est question dans ce livre n'est pas simplement grammaticalement nécessaire parce qu'Augustin parle de lui, de sa propre vie, mais qu'il est aussi philosophiquement fondé, parce que ce qu'Augustin veut nous faire découvrir, c'est la possibilité pour un homme de dire « je », et nous aurons à voir que cela est fondé dans le fait que le premier qui dit « je », c'est Dieu, quand il se présente à Moïse dans le livre de l'Exode, et nous rappelons que Moïse apprend en quelque sorte à dire « je » en écoutant Dieu parler lui-même d'abord en première personne. Et nous retrouverons un écho de cela dans les confessions d'Augustin. Le premier point, donc je l'ai dit, c'est que les confessions est un livre écrit à la première personne, « je ». Le deuxième point, qui est aussi frappant dès le commencement, c'est le fait que ce n'est pas un soliloque, mais un dialogue. Augustin parle à quelqu'un, qui est Dieu en personne, qu'il tutoie, la langue latine ne connaît que le tutoiement, et cela veut dire que le livre tout entier est écrit sous la forme d'un dialogue entre un je et un tu. Ceux qui connaissent la philosophie moderne savent toute l'importance de ce thème ou de cette structure dans, justement, la philosophie moderne. La relation entre le je et le tu signifie par là que ce qui est essentiel pour un être humain, ce qui est fondateur pour un être humain, c'est le fait qu'il n'accède au je, à la première personne du singulier, que dans la relation avec un autre je, et un autre je qu'il aborde sous l'aspect du tu, toi. Voilà. Donc là, nous avons déjà beaucoup de choses capitales pour l'histoire de la philosophie, pour l'histoire de la pensée chrétienne, l'instauration du je et le dialogue entre le je et le tu. Nous nous rappelons que Plotin, qui est un philosophe qui a compté beaucoup dans la formation intellectuelle de Saint-Augustin, Plotin parle beaucoup de celui qu'il nomme l'un, et l'un, l'unique, et qu'il nomme aussi parfois Dieu. Mais il y a une chose frappante, c'est le fait que jamais Plotin ne dialogue avec Dieu, avec l'un. Plotin écrit toujours à la troisième personne, parce qu'il parle à la troisième personne. Il parle de lui, Dieu, et il parle en le désignant, en le montrant, mais il ne parle jamais directement, ni immédiatement, ni par médiation d'ailleurs, avec l'un ou avec son Dieu. Ce qui est frappant alors en lisant les Confessions de Saint-Augustin, c'est le fait que dès le commencement, Augustin se tient comme un je qui parle à un tu, et qu'Augustin se meut tout entier dans l'élément de ce dialogue entre une âme et son Dieu. Nous avons ici donc une structure tout à fait capitale pour l'histoire de la pensée. C'est la relation du je et du tu, et la relation ici entre un je humain et un tu divin. Le premier modèle de cette relation se trouve notamment dans les psaumes. J'aurai l'occasion aussi d'y revenir. Augustin est un grand lecteur des psaumes, qu'il connaît quasiment par cœur. Je rappelle aussi qu'Augustin, au cours de sa vie de prêtre et d'évêque plus tard, a commenté intégralement tous les psaumes. Et nous voyons donc, si nous revenons au psaume, que le psaume est écrit en première personne le plus souvent, et que c'est un homme qui est dans une relation avec Dieu, qui le tutoie, qui l'appelle, qui l'interpelle, parce qu'il se sait d'abord appelé par Dieu. Voilà, donc nous avons ici un premier point capital par lequel Augustin est bien le père de la philosophie, ou un des fondateurs éminents de la philosophie, par la découverte de cette structure relationnelle, et par la découverte de la personne, en première personne, je. Il y a un autre point capital, que nous aurons aussi l'occasion de mieux découvrir par après, c'est la découverte de l'esprit, la découverte de l'âme spirituelle, et voyez bien que cela est lié à la découverte du je, de la première personne. Cela veut dire que pour Augustin, la chose importante à découvrir, à méditer, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, qui sommes-nous? Nous pouvons nous demander ce qu'est un être humain. Cette question, vous vous rappelez, a été notamment découverte par Socrate. C'est la grande question, qu'est-ce que l'homme? Mais quand je me demande qu'est-ce que l'homme, je me demande ce qu'est l'homme, quel qu'il soit, et c'est une question donc de portée universelle. Augustin découvre une nouvelle question à l'intérieur de la première. Ce n'est plus seulement la question qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qui différencie un homme d'un animal ou d'un dieu notamment, mais c'est la question moi qui suis-je. Et là, il y a aussi quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire de la pensée. Cette question, précisément en première personne, est comme première personne. Moi, qui suis-je? Cela veut dire qu'il me faut méditer et mieux connaître l'essence de mon âme spirituelle et tout ce qui constitue cette âme qui est la mienne ou qui est la nôtre, pour parler au nom de tous. Alors, nous verrons aussi, en lisant les Confessions, des découvertes capitales relatives notamment à la volonté. Le fait que chacun d'entre nous soit capable de volonté, de dire oui, de dire non, cela nous est familier. Mais les philosophes savent que la découverte de la volonté, justement, est une chose capitale et qui s'est faite peu à peu. Et un des auteurs les plus importants pour la découverte de la volonté, c'est Augustin. Un autre point que nous aurons aussi l'occasion d'approfondir, c'est la découverte de la mémoire. et notamment la découverte de la mémoire en relation avec la temporalité. Nous avons tous aussi une expérience de la mémoire. Nous savons que certaines maladies qui affectent la mémoire affectent notre personnalité. Et nous savons aussi d'expérience que notre mémoire nous permet de nous rappeler ce qui a été, nous rappeler le passé. Et par là, donc, nous savons cette relation entre la mémoire et le temps. Mais pour anticiper encore, Augustin est l'auteur en fait, qui a véritablement le premier mieux exploré ce que les philosophes ont nommé la temporalité, c'est-à-dire l'expérience de la conscience intime du temps. Qu'est-ce que le temps vécu par une conscience, par un être humain, en tant que conscience? Voilà, donc là nous avons de nouveau une grande question. Nous aurons aussi à voir la question du corps, et pour conclure cette première esquisse, il faudra voir la relation entre l'âme humaine et le Dieu trinitaire. Certains savent sans doute qu'Augustin a écrit un magnifique traité qu'il a intitulé La Trinité, un traité consacré à essayer de découvrir le mystère de la Sainte Trinité en comprenant que l'homme est précisément créé à l'image et à la ressemblance du Dieu trinitaire, ce qui veut dire pour Augustin que nous avons à découvrir dans l'âme humaine des traces de la Trinité, une organisation de l'âme humaine, pour parler ainsi, qui est ternaire, comme les dieux en personne, puisqu'il est trinitaire. Nous écoutions une musique très ancienne, certainement une des plus anciennes que nous puissions écouter. Elle est inspirée d'un manuscrit qui vient de Milan, et c'est une musique de l'époque de Saint Augustin. Plus exactement, c'est l'hymne ambroisien qui a été composé à l'époque de Saint Ambroise de Milan, et je vous rappelle qu'Augustin était certainement dans l'église à ce moment-là. La voix que vous avez entendue était la voix de Sœur Marie Kérouze. C'était l'ensemble Organum de Marcel Pérez qui chantait. Voilà. J'ai choisi cette musique parce qu'elle est une des plus anciennes que nous pouvons écouter, et elle est une musique contemporaine de la vie d'Augustin, puisque Augustin a vécu à Milan et, je vous l'ai dit, était présent certainement dans l'église quand cette musique a été chantée.
Les penseurs chrétiens, Philippe Soual, professeur de philosophie à l'Institut catholique de Toulouse.
Commençons par quelques mots sur la famille d'Augustin. Augustin est né dans une province de l'Empire romain qui s'appelle Africa. Il est d'une famille modeste, très simple. Je vous rappelle que son père était relativement pauvre, et c'est la raison pour laquelle, à l'âge de 16 ans, Augustin a dû pendant une année interrompre ses études, son père n'ayant plus les ressources suffisantes pour financer ses études. Sa mère, Monique, est très connue. Nous savons aussi le rôle qu'elle a joué dans la conversion d'Augustin, j'y reviendrai. Son père, Patricius, était un homme tout à fait différent. D'après ce que nous en dit Augustin, c'était un homme assez violent, il lui arrivait de battre sa femme. Et c'était un homme qui, pendant longtemps, a été distant du christianisme, et plus que distant, même adversaire. Et donc nous voyons un Augustin grandir dans une famille chrétienne par sa mère, agnostique ou athée, ou compliqué par son père, et nous voyons en Augustin quand même recevoir dès son enfance une véritable éducation chrétienne qui nous est difficile de reconstituer dans le détail, mais nous savons quand même bel et bien qu'Augustin a reçu par sa mère Monique les rudiments d'une éducation chrétienne. Nous savons aussi que cette éducation reçue par Monique a été importante au regard d'Augustin lui-même, qui en témoigne à plusieurs reprises, mais nous nous rappelons que Augustin a reçu le baptême tardivement, puisqu'on reçoit le baptême à l'âge de 30 ans, quand il est justement à Milan. Et ce qui fait que nous pouvons parler à son égard de conversion tardive. Lui-même d'ailleurs le dira dans un passage célèbre, en disant « Tard, je t'ai aimé », en répondant justement à l'appel de Dieu. Alors, nous pouvons nous interroger sur la raison de ce caractère tardif de la conversion. Je le ferai dans les émissions qui viennent. J'ai noté pour commencer donc, le fait qu'il a reçu par Monique une initiation chrétienne, des prières, des gestes, une première approche de Dieu, une première approche de Jésus, et en même temps, lui-même Augustin en témoigne, il le dit dans ses confessions, cette foi qui a commencé dans sa jeunesse, c'est-à-dire cette rencontre du Christ qui a commencé dès son enfance, est venue très tardivement à maturité. Et il faut nous demander quelles sont les raisons de ce retard ou quelles sont les raisons de ces difficultés. Alors, il y a une première raison, je l'ai dite, c'est la dualité, la différence entre le père et la mère, entre Patricius et Monique. Mais il y a une autre raison qui est plus intime à l'âme d'Augustin, qui est le fait qu'Augustin est ce que je pourrais appeler un chercheur de vérité. C'est sans doute un homme passionné, un homme qui ne cherche pas de demi-mesure, qui ne cherche pas une demi-vérité, mais quelqu'un qui cherche passionnément la vérité et qui cheminera, qui cherchera, qui tâtonnera jusqu'à ce qu'il puisse trouver la vérité tout entière, selon le mot de saint Jean. Et c'est ce qui fait qu'Augustin commencera par une éducation chrétienne, dont il se détachera en partie, puisqu'il sera aussi pendant plusieurs années proche des mouvements et des cercles manichéens, avant de revenir donc assez tard à la foi chrétienne, et à ce moment-là de prononcer un véritable oui libre au Christ, donc ce qui s'appelle la conversion. Voilà. Augustin a écrit ce qui est un des chefs-d'œuvre de toute la littérature mondiale. Ce livre s'intitule « Les Confessions », tout simplement, les confessions, et je vous invite à lire les confessions. Je sais que vous êtes nombreux sans doute à l'avoir lu. Tous ceux qui ont lu ce livre l'ont ouvert sans doute en se disant « Tiens, je découvrirai en le lisant ce qu'a été la vie d'un Romain de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire un Romain de la fin de l'Empire romain. » Et tous ceux qui l'ont lu ont découvert qu'à travers l'histoire de l'âme de saint Augustin, c'est leur propre histoire dont il était question. Et nombreux sont les témoignages de ceux qui ont fait cette expérience. En lisant le livre d'Augustin, je découvre en fait que c'est d'une certaine façon mon propre itinéraire dont il est question. Puisque chaque être humain peut se souvenir de son enfance, de la crise de l'adolescence ou du jeune homme ou de la jeune femme, et de toutes les étapes de la maturité. J'y reviendrai, j'en ai déjà parlé un peu, cette notion de crise spirituelle est vraiment décisive. Et non seulement Augustin l'a vécu, mais encore il l'a théorisé. Et explicitement, il emploie le mot de crise pour dire ce qu'a été son itinéraire et la déchirure de son âme à une certaine époque de sa vie. C'est donc un chercheur de vérité que nous rencontrons en allant écouter Augustin. Chercheur de vérité qui passera par tous les affres, toutes les difficultés d'un véritable chercheur de vérité. J'y reviendrai aussi. Cela veut dire qu'Augustin connaîtra ce qu'il a appelé lui-même une crise sceptique. Je rappelle que le scepticisme est un courant essentiel de la philosophie antique, qu'Augustin n'a pas inventé. Un des mots les plus importants de cette école de philosophie, c'est en latin « de omnibus dubitandum », en français « il faut douter de tout ». Le sceptique est quelqu'un qui met en question, qui doute de toute chose, et nous verrons Augustin le plus sérieusement du monde, et pas du tout pour plaisanter, douter véritablement de toute chose, parce qu'il est épris de la vérité, qu'il ne veut pas se contenter d'une chose qui est vraisemblable, qui a l'air séduisante, qui a l'air charmante, qui a l'air agréable, ou utile, ou je ne sais quoi, mais qu'il veut la vérité, tout simplement. Et il lui faudra un certain temps, et même un long temps, pour comprendre que cette vérité qu'il cherche n'est pas simplement une idée ou une pensée, mais une personne. Selon le mot que vous êtes nombreux à connaître, c'est la parole du Christ dans Saint Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous verrons donc un Augustin partir à la recherche de la vérité au sens philosophique, au sens où il cherche une idée vraie, une pensée vraie, un principe fondateur pour sa vie. Et nous le verrons se démener, se débattre, douter, désespérer. Et il y a vraiment des pages magnifiques qui sont telles qu'en les lisant, encore aujourd'hui, un homme d'aujourd'hui peut se dire « Mais c'est bien, moi aussi je suis passé par cela et je peux encore connaître ce genre de difficulté, cette crise spirituelle. » Et de telle sorte que le dénouement consistera à découvrir que cette vérité qu'il cherche est mieux qu'un principe ou qu'une pensée. C'est une personne et c'est Dieu en personne. Voilà, je vous propose d'ouvrir les confessions de Saint-Augustin et dans les quelques séances prochaines, de lire certains passages importants. Alors, pour commencer aujourd'hui, nous pouvons déjà lire le prologue des confessions, qui est un texte magnifique, un texte difficile, sans doute un texte un peu trop difficile aussi pour beaucoup de lecteurs, parce qu'Augustin tout de suite commence en parlant de choses extrêmement subtiles, qui sont vraiment embarrassantes pour beaucoup. Alors, j'y vais. Vous remarquerez en lisant les confessions qu'Augustin commence tout de suite en parlant à Dieu. Et il ne commence pas donc par parler de soi, lui, Augustin, il commence en parlant, et en parlant non pas de Dieu, mais à Dieu. Le premier mot, c'est « Tu es grand Seigneur, et tu es bien digne de louange ». La première attitude d'Augustin, c'est donc une attitude de profession de foi et d'amour pour Dieu. Si nous regardons donc les personnages et leur entrée en scène un peu comme au théâtre, nous découvrons que le premier qui entre en scène, si je puis dire, c'est Dieu. Et Augustin fait entrer Dieu d'abord. « Tu es grand Seigneur ». Ensuite, le deuxième personnage qui rentre dans l'intrigue, un peu comme au théâtre toujours, c'est l'homme, tout homme, vous et moi, n'importe qui. Et le troisième personnage qui entre en scène, enfin, c'est Augustin. Par là aussi, nous sommes dans quelque chose qui est caractéristique de cette époque de la pensée. Augustin ne commence pas en parlant de soi, en se mettant en scène, soi tout seul. Il commence par introduire Dieu, et ensuite c'est lui qui vient devant Dieu parce qu'il a été appelé par Dieu à se tenir devant lui, à entrer en dialogue avec lui. Alors je l'ai dit, donc la première personne qui entre c'est Dieu, et le premier mot à propos de Dieu c'est sa grandeur et sa sagesse, et ensuite la deuxième personne ou deuxième personnage qui rentre en scène, c'est l'homme, tout homme. Et que dit Augustin à propos de l'homme? Il retient deux traits importants. Le premier trait c'est la mortalité. Ce qui est assez étrange au premier regard, est-ce que c'est la première chose à dire de l'être humain? C'est la première chose à dire en ce sens que, face au Dieu éternel, l'homme expérimente son caractère éphémère, fragile, c'est-à-dire sa mortalité. Le deuxième point sur lequel Augustin insiste immédiatement, c'est le péché. Le péché, c'est-à-dire la faute, c'est-à-dire le fait que nous commettons du mal qui nous blesse, par lequel nous nous blessons les uns les autres. Et donc voilà le premier élément mis en place. L'homme pécheur est mortel face au Dieu qui est digne de louange et qui est sage. À partir de là, Augustin peut entrer en scène, mais cela, nous le verrons la semaine prochaine.